BFM Business, Impact PME L'Hebdo, présenté par Philippe Bloch.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro d'Impact PME. Vous le savez, notre nouvelle émission sur BFM Business consacrée aux PME, à leur vie quotidienne, à leurs enjeux, à leurs challenges, en partenariat avec la CPME et bien sûr dans la perspective d'un grand événement le 5 novembre au Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, nos invités et moi allons parler de sécurité digitale et de transformation numérique. Avec moi pour en débattre, trois invités, un entrepreneur, puisque c'est un peu notre règle d'avoir toujours un entrepreneur de PME. Alors je sais même pas s'il est encore une PME, parce que With Event est une ex-startup créée en 2008. Avec vous, Pierre-Henri Deballon, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes le président cofondateur. On a également alors un expert, Romain Bonenfant. Bonjour Romain, vous êtes sous-directeur au sein de la Direction Générale des Entreprises, et vous êtes notamment en charge du portail France Num, on va en parler bien évidemment.
Oui,
et puis Frédéric Faucher, directeur de la division B2B mobilité chez Samsung.
Bonjour Philippe.
On commence ensemble avec l'aventure With Event. Comment c'est né en 2008? Parce que les chiffres sont impressionnants. 11 ans plus tard, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et en 2008...
Un leadership incroyable. Quel est votre métier?
On a deux activités. Aujourd'hui, on fait de la billetterie en ligne pour les organisateurs d'événements.
Oui.
Et on propose aussi des solutions qu'on appelle les solutions de cashless pour ces mêmes organisateurs d'événements qui permettent en fait de payer avec un bracelet pendant un festival et de ne pas payer avec des espèces. Et comment l'aventure est née? En fait, on était nous-mêmes organisateurs d'événements et finalement, on a créé des outils pour nous-mêmes et qu'aujourd'hui on propose à d'autres organisateurs d'événements.
Parce qu'au départ c'était quoi les problématiques? C'est qu'il fallait effectivement enregistrer les gens, les accueillir, des badges, enfin tout ce qui était compliqué à l'époque.
Exactement,
en fait.
Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est une vieille start-up, on a 10 ans, et donc il y a 10 ans, quand on s'inscrivait à un événement, il arrivait encore qu'on remplisse un formulaire, qu'on renvoie un chèque, et aujourd'hui tout se fait en ligne, ça on le sait.
Bien sûr.
Et au-delà de faire l'achat en ligne, il y avait toute une myriade d'outils qui étaient indispensables pour les organisateurs d'événements, pour faire le contrôle d'accès, vous l'avez évoqué, éditer des badges à l'entrée de l'événement.
Ouais, absolument.
Et finalement, c'est tous ces outils qu'on a proposé aux organisateurs d'événements, et surtout le vrai intérêt, c'est qu'on a cassé les barrières que nous on a rencontrées à l'époque.
Quelles étaient-elles?
Alors, barrières techniques, c'est-à-dire que moi je suis pas développeur informatique et donc...
Rarement les entrepreneurs qui ont la bonne idée le sont d'ailleurs.
c'est souvent qu'ils en souffrent.
Exactement.
Ils souffrent d'une barrière
technique. On
part
toujours d'un problème personnel en général. Ouais.
Donc une barrière technique, nous c'est un ami informaticien qui développait pour nous ce module d'inscription et on disait que tout le monde n'avait pas cet ami. On voulait que ce soit instantané, rapide à mettre en œuvre.
Facile d'usage.
Et puis on voulait aussi que la base de données, c'est-à-dire les gens qui s'inscrivent, qui vont à l'événement, appartiennent à l'organisateur d'événements, qui sont en capacité ensuite de communiquer avec eux pour les inviter et revenir à un événement.
Vous avez créé un marché, est-ce qu'il y a des concurrents? Parce que c'est vrai que moi je suis souvent invité à des événements par lesquels je m'inscris par votre solution. Vous êtes nombreux sur ce marché aujourd'hui, vous en avez le leadership, vous êtes le leader.
Alors sur le marché français, sur ce positionnement-là, on est leader.
Oui.
Maintenant, celui qui vend le plus de billets en France, c'est France Billets, le groupe La Fnac.
Mm-hmm.
On est deuxième derrière eux en nombre de billets vendus chaque année. Et après, il y a des acteurs dans chaque pays, parce qu'en fait, le marché de la billetterie des inscriptions en ligne est un marché qui est assez segmenté avec des spécificités locales, ce qui rend difficile la naissance d'un GAFA mondial sur ce sujet.
Pour autant, vous êtes également en dehors des frontières françaises ou pas?
Alors, on a 5 bureaux aujourd'hui. On a un bureau à Montréal, un bureau à Londres, un bureau à Madrid et puis un bureau à Lausanne. Et le cœur de l'activité est à Paris, puisque aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est le marché français. Et tout l'enjeu, c'est de se développer à l'international.
Alors, je regardais les chiffres, en fait, hier soir sur Internet. Alors, bon, 90 salariés, 15 000 clients, ça, ce sont des chiffres qui ne datent pas d'hier soir. Mais je voyais hier soir 196 000 organisateurs séduits, 21 000 événements en ligne, simplement hier soir. C'est considérable.
Oui, c'est
ça
énorme.
Concerne tout le monde? Parce qu'on pense à un événement, il n'y a pas que des concerts à Bercy. Enfin, c'est quel type d'événement en fait?
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout type d'événement en termes de typologie et puis aussi en termes de taille. Donc ça va d'un cours de photo avec 10 personnes, un atelier de couture, jusqu'au salon de l'agriculture, jusqu'au plus gros festival français. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre dans le même outil une solution qui réponde à la fois à ces grands organisateurs et aux petits. Donc quand on fait ce travail de répondre à des très grands organisateurs, on va développer des fonctions très pointues.
Oui.
Et quand on fait le travail de faire en sorte que ça réponde à des plus petits organisateurs, on fait tout un boulot de simplification et d'ergonomie qui bénéficie aussi aux grands organisateurs avec une solution simple.
On va parler, Pierre-Henri Deballon, de cybersécurité avec nos experts aussi. Et je me demandais, est-ce que ça touche votre métier ou pas? Est-ce qu'il y a de vrais enjeux là-dessus? Et quels sont-ils pour une PME comme la vôtre?
C'est un vrai enjeu parce que on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est 200 millions d'euros de flux.
Mmh.
Une grande partie de ces flux sont reversés aux organisateurs d'événements.
Oui.
Il faut s'assurer que ceux à qui on reverse l'argent sont les bonnes personnes en face. Et puis, on est comme toutes les PME, aussi avec ce risque de se faire attaquer nos systèmes, que quelqu'un pénètre à l'intérieur. On a des bases de données sensibles. On travaille avec l'Elysée, par exemple, pour le défilé du 14 juillet. Donc, on bosse en lien avec leurs services pour s'assurer que ces bases de données soient protégées.
Oui, bien sûr.
Donc, on a des vrais enjeux de sécuriser les bases de données et sécuriser les flux financiers avec des moyens technologiques technologiques et aussi avec des bonnes pratiques humaines, parce que finalement il y a beaucoup de fraudes qui sont aussi des arnaques humaines en fait, c'est-à-dire pas forcément très pointues techniquement, mais oui. L'arnaque au président, vous savez, quand on appelle
oui,
pour ordonner un virement,
oui, bien sûr, absolument. Je pense que ça, c'est un sujet dont on va sans doute parler. Je sais pas d'ailleurs si les présidents, on pense souvent président du CAC 40, et même eux parfois se font avoir, ce qui est d'ailleurs assez hallucinant. Ouais. Mais pour autant, est-ce que les PME sont plus sensibles? On va peut-être d'ailleurs passer avec vous, Romain Bonenfant, à la DGE. Et la DGE, elle a un portail qui s'appelle France Num, qui est fait pour éduquer finalement au numérique, notamment les entreprises qui sont encore un peu débutantes sur l'ensemble de ces enjeux. D'abord, quel est votre job, vous, au sein de la DGE, en fait?
Eh bien, notre travail, c'est de mettre en œuvre cette politique France Num, qui est l'initiative du gouvernement pour la transformation numérique des TPE-PME.
Qui date de quand, d'ailleurs?
Elle date d'octobre 2018, donc
d'accord,
ça date relativement récent.
Je ne trouve pas encore très connu dans ce milieu des PME. J'imagine que c'est votre ambition. Mais...
Tout à fait, c'est notre ambition et on essaye de faire croître cette initiative. C'est une initiative qui est pilotée par Agnès Pannier-Runacher, donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, qui a une approche totalement différente sur la transformation numérique des TPE-PME de ce qui a été fait auparavant. Parce que justement, ça repose sur une plateforme, cette plateforme qu'on opère, nous, la Direction Générale des Entreprises, plateforme qui va proposer aux chefs d'entreprise du contenu inspirant sur la transformation numérique. On va trouver des vidéos, des témoignages d'entreprises qui ont passé ce premier pas numérique, des belles histoires en fait de succès, de ventes en ligne, de transformation de processus internes qui ont permis à une entreprise de faire des bénéfices très concrets sur le terrain. Et puis c'est aussi de l'accompagnement très concret pour le chef d'entreprise, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va pouvoir trouver sur le portail France Num ce qu'on appelle des activateurs, c'est-à-dire des prestataires de services, des fournisseurs de solutions qui vont concrètement l'aider à passer ce premier pas.
Tout à l'heure, sur plein de sujets, là aussi, je fais un peu mon boulot, je suis allé voir ce que vous proposiez, et il y a plein de rubriques, il y a comprendre le numérique, trouver un accompagnement, financer son projet, tester sa maturité numérique, ce qui est intéressant par rapport aux PME qui nous écoutent et qui nous regardent, être visible sur Internet, améliorer ses process internes, se former, recruter, protéger son entreprise, justement par rapport à ce qu'on évoquait de la cybersécurité, utiliser données, travailler différemment, etc. Pour l'instant, qui s'en sert du coup de ce portail? Et à qui est-il destiné? Plutôt aux PME, aux ETI, aux TPE? Quelle est votre cible?
Il est destiné aux PME-TPE, celles qui sont loin du numérique aujourd'hui, donc celles qui ne font pas du numérique une part de leur stratégie d'entreprise en fait.
Globalement, parmi les TPE, elles le sont toutes loin.
C'est pas mal les TPE et c'est pas mal les artisans commerçants quand on descend dans la cible en fait, qui souvent se disent le numérique c'est pas pour moi. Et donc France Num, c'est vraiment l'outil pour lutter contre ça, pour faire que toutes les entreprises se saisissent des opportunités numériques. Pourquoi? Parce que pour les entreprises, c'est un levier de création de valeur, plus de chiffre d'affaires parce que j'atteins une cible plus large, un levier de productivité parce que je numérise mes processus internes, je suis plus efficace. Donc on relaye pas mal d'exemples comme ça sur France Num, des témoignages de chefs d'entreprise.
J'ai vu ça, absolument.
Vous l'avez catégorisé. Et puis si on regarde d'un point de vue plus macro, c'est vraiment un enjeu de compétitivité pour la France, en fait. Parce que quand on regarde les statistiques européennes, en France, on a 15% des TPE-PME qui vendent en ligne. La moyenne européenne est à 17%. Oui. En Allemagne, c'est 19%. Donc, on voit qu'on a un retard spécifique en France sur les petites entreprises. Quand on regarde la typologie des entreprises, on voit que nos grandes entreprises sont bonnes sur la numérisation. C'est vraiment spécifique aux petites entreprises. Donc, c'est vraiment l'ambition de France Num. C'est pour ça qu'on est sur une dimension communication qui est très forte, parce qu'on pense que pour réussir, on a besoin de convaincre le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise de TPE PME, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer pour se documenter sur le numérique, donc on lui donne du contenu prêt à l'emploi, et ensuite on lui donne les outils pour faire sa transformation avec ce panel d'activateurs.
Alors on verra ensemble après comment vous procédez, mais on va peut-être poursuivre avec vous Frédéric Faucher, vous êtes, je le rappelle, le directeur de la division B2B mobilité de Samsung. Samsung, c'est avant tout des devices, mais c'est aussi beaucoup d'intelligence à l'intérieur. Alors d'abord, quelle est la division B2B mobilité? Qu'est-ce qu'elle fait exactement?
Eh bien, elle a pour vocation.
Samsung, c'est par définition mobilité, donc dites-moi.
C'est ça, mais elle a pour vocation, en fait, de commercialiser nos produits et nos solutions à l'encontre des entreprises en France, des entreprises du CAC 40 jusqu'au TPE. Mmh.
Quand on dit solution chez Samsung, forcément on pense aux devices smartphones. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui concernent les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Pour les entreprises, en termes de devices, c'est les smartphones et les tablettes. Ouais. Et pour les solutions, c'est énormément d'approches sur un pilier stratégique pour nous qui est la sécurité, où on va accompagner les entreprises dans leur déploiement pour les aider à mieux se protéger, à mieux séparer les données personnelles et professionnelles de leurs collaborateurs.
Mais à travers quoi? À travers du conseil, à travers de l'ingénierie technique, à travers des outils, parce que là on parle d'outils en tant que grand public, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ça nous est très utile et on fait plein de choses avec.
Mais si
j'ai une PME et que je me dis tiens, je ne savais pas que Samsung pouvait m'aider éventuellement à améliorer ma sécurité informatique par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me proposer?
Alors, déjà en amont, ce qu'on va faire qui est très important, c'est qu'on va travailler avec les instances gouvernementales pour faire certifier nos solutions en termes de protection nationale et pour être sûr que ce que l'on va proposer aux entreprises répond au cahier des charges qui sont définis par exemple par l'ANSSI. Ensuite, on va intégrer dans nos mobiles et nos tablettes des solutions de sécurité qui vont permettre avec par exemple Nox Plateforme pour Entreprises, de segmenter les données personnelles et professionnelles dans un container, ce qui va permettre en fait complètement de rendre parfaitement étanches les données professionnelles qui pourront être administrées et gérées par l'entreprise, et puis de laisser le collaborateur avec toute sa vie personnelle sur son mobile. Donc ça, ce sont des solutions qu'on commercialise à destination des entreprises. Et puis, c'est également d'innover et de mettre directement sur nos produits, lorsqu'ils sont commercialisés nativement, des solutions qui permettent aux entreprises de gérer la mise à jour de toutes les applications et logiciels qui sont embarqués sur ces téléphones et ces tablettes, de façon à ce que la sécurisation soit absolument optimisée.
Quels sont les principaux enjeux, les principaux risques? On évoquait, il y a les malwares, il y a les chevaux de Troie, les virus, il y a les protections des données, il y a l'arnaque au président. Quels sont les principaux risques auxquels sont exposés notre cible dans cette émission? Quels sont les PME?
Oui, vous l'avez cité, il y a aussi les rançongiciels, par exemple. On voit qu'une préoccupation des entreprises, d'ailleurs, vous avez cité le foisonnement de contenus qu'on peut avoir sur France Num. Les contenus cybersécurité font partie des plus regardés en réalité.
Donc il y a une vraie prise de conscience.
Donc il y a une vraie prise de conscience. Nous, notre cible, encore une fois, c'est les entreprises qui n'ont pas fait leur premier pas numérique. Alors, nous, on pense quand même qu'il y a plus de risques à ne pas être en ligne qu'à être en ligne, en réalité, parce que c'est une perte d'opportunité, c'est une perte de business. Cependant, à partir du moment où on fait le choix d'être en ligne, il faut se préoccuper de cybersécurité. On a aussi une initiative gouvernementale qui s'appelle ACIMA, sur la lutte contre les cybermalveillances. C'est un portail sur lequel les entreprises qui ont été victimes de cyberattaques peuvent trouver des informations, trouver des interlocuteurs pour les aider à résoudre leurs problèmes.
Les gens partagent, on m'a fait cette... j'ai été victime, voilà ce que j'ai fait, etc. Parce que, par exemple, vous, Pierre-Henri de Ballon, vous avez eu des attaques? Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Pendant un week-end, ça a commencé un vendredi soir, et on a eu des requêtes, en fait. Hein. C'était une attaque en déni de service, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'ordinateurs, mais finalement, qui sont des ordinateurs infectés, qui vont appeler votre serveur, et puis le surcharger de telle sorte qu'il ne soit plus capable de répondre à votre besoin normal.
D'accord.
Et donc, ça a duré pendant un week-end entier. Et
à ce moment-là, il se passe quoi? C'est-à-dire que le client qui veut utiliser WizEvent...
Le vendredi, pendant une heure, le site n'était plus accessible.
D'accord.
Et puis petit à petit, il est redevenu accessible. Et après, il est resté accessible tout le week-end, mais avec des difficultés de performance. Et du coup, avec des services qu'on a dû sécuriser, mettre de côté, le temps que tout revienne à la normale.
Vous êtes une boîte qui dépend de l'informatique. Vous aviez anticipé ça. Et pour autant, ça vous est arrivé peut-être beaucoup plus que d'autres boîtes qui sont moins...
On ne l'avait pas complètement anticipé, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est équipé avec un outil qui nous protège et qu'on n'avait pas auparavant. Donc on a aussi appris en se brûlant, ce qui n'est pas
jusqu'à
forcément la
prochaine attaque qu'on n'aura pas prévue. C'est un peu ça l'idée aussi, en fait.
Mais donc du coup, c'est pendant un week-end les équipes techniques qui bossent, et puis et derrière on avait été porté plainte. Après, il n'y a pas eu de suite parce que...
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des actions post-attaque éventuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Nous déjà, on a mis ces outils pour plus que ça se reproduise.
Oui. Jusqu'au gars plus malin qui va contourner l'outil.
Exactement.
Forcément.
Et après, on a été porté plainte. Et après, la plainte, c'est compliqué parce que ça vient de nous, les requêtes.
Vous avez identifié d'où ça venait ou pas? Est-ce qu'on peut identifier?
On identifie d'où viennent les requêtes, mais on ne sait pas qui les a lancées, puisque ça venait de Chine, ça venait d'Australie, ça venait de tous les pays du monde. Je crois qu'on recevait par minute, on était à 10 millions de requêtes.
Et sur une attaque de cette nature, quel était l'enjeu et l'objectif des attaquants? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire à part vous emmerder, si je peux dire?
On ne sait pas. On avait un événement ce week-end-là, qui est un événement autour du jeu vidéo, et avec un youtubeur très connu, mais qui a aussi des détracteurs. Et on suppose que c'était pour l'empêcher de vendre. Mais du coup, ça a impacté tous nos services.
Est-ce qu'il y a, Romain Bonenfant, des moyens de contre-attaquer quand ça arrive? Quels sont les moyens dont on dispose quand on a ce type d'attaque?
On a cette plateforme cybermalveillance, donc pour concrètement résoudre le problème, éteindre l'incendie. C'est vrai que ce qu'on constate chez les chefs d'entreprise en général, c'est qu'une fois qu'ils ont été confrontés à ce problème, ensuite ils mettent un plan d'action, ils mettent en place une démarche pour mettre la cybersécurité au centre de leur processus. Et je pense que pour une entreprise native du numérique comme vous, c'est fondamental de s'en préoccuper. On a également l'Agence nationale pour la cybersécurité, l'ANSSI, qui met en place des préconisations régulières. Donc je pense que les entreprises doivent chercher à s'informer sur ces sujets, sur l'évolution des menaces. Comme vous l'avez dit, c'est très variable, ça change en permanence et donc il faut rester à l'état de l'art. On a aussi en France un secteur de la cybersécurité qui est très fort, c'est un secteur qui croît de 10 à 15% par an. Oui. Donc c'est aussi un potentiel de croissance en réalité pour notre pays. Oui. Ces attaques, on voit qu'elles ont un impact économique qui va être très important pour les entreprises. Donc en regard de ça, on a une offre qui a un potentiel de croissance qui est considérable. On est en train de structurer ce secteur de la cybersécurité avec ce qu'on appelle le comité de filière des industries de sécurité. Donc c'est reconnaître d'abord la cybersécurité comme une des filières majeures de notre pays, comme on le fait pour l'automobile, l'aéronautique, oui, on l'a fait pour la cybersécurité. Donc les industriels vont signer un contrat de filière avec l'État le mois prochain, dans lequel ils vont s'engager sur des projets communs et faire émerger une offre mieux adaptée pour les entreprises.
Frédéric Fauchère, vous m'avez communiqué quelques chiffres qui sont impressionnants justement sur ces problématiques. Je voyais notamment que 45% des entreprises n'ont aucune politique officielle en matière de sécurité des données clients. Et puis un autre sujet qui me relie forcément à Samsung et à ses devices mobiles, apparemment le nombre d'attaques de malware sur mobile a doublé. C'est-à-dire qu'on avait tendance, enfin j'avais un peu tendance à penser que les mobiles étaient peut-être un peu mieux protégés que ne le sont les PC. En tout cas, c'était l'image peut-être fausse, parce que je ne suis pas du tout un expert de ces sujets.
L'inverse.
Mais est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui ?
C'est l'inverse, parce que la sécurisation des PC d'entreprise est assez mature. C'est un sujet déjà qui date de quelques années.
Bien sûr.
Et il y a beaucoup d'offres qui sont structurées. Le mobile, d'abord, il y a beaucoup plus de data qui sont échangées par le mobile et des data
puis,
extrêmement sensibles.
Beaucoup d'actions que nous faisons au quotidien d'e-commerce et en bascule sur le mobile aujourd'hui.
Absolument. Donc, au niveau mondial, pour vous rajouter un chiffre, c'est 165 millions d'attaques réalisées sur mobile. C'est colossal.
Ouais. Et c'est 445 milliards ou même plus, compte tenu la cybercriminalité encore plus à l'économie mondiale. Enfin, c'est un truc de fou.
C'est colossal.
Ouais.
Et malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants des PME ont assez peu conscience de la vulnérabilité de leur cybersécurité et de ce qu'ils risquent, parce que on fait beaucoup d'efforts pour les informer, mais voilà, on se dit que ça arrive aux autres, que on n'est pas forcément concerné par ça. Mais ça vient très vite.
Alors, j'ai la chance d'avoir un praticien et deux experts. Si on voulait faire... Alors, il nous reste une dizaine de minutes, donc on est bien, on a le temps. Je ne vais pas aller voir le site, j'aimerais que vous fassiez un best-of des meilleurs conseils pour celui qui vous écoute, entrepreneur de sa boîte qui n'a pas conscience des dangers. Quels sont les principaux réflexes à acquérir ou les premières choses à faire en fermant le poste télé et radio de cette émission ?
Premièrement, s'informer, c'est-à-dire prendre conscience que le risque cyber doit être maîtrisé.
Okay.
Il faut s'informer.
Maintenant je sais que je suis une victime potentielle.
Exactement, vous savez que vous êtes une victime potentielle. Donc ensuite, vous savez que vous devez avoir une démarche proactive en matière de cybersécurité, de la même manière que vous gérez vos risques financiers de votre entreprise, de la même manière qu'une PME industrielle va gérer ses risques environnementaux, par exemple. Ouais. Eh bien, il faut gérer ces risques cyber, il faut s'adresser à des spécialistes.
Ok, affiche-moi, j'ai pas d'expert. Moi, j'ai pas d'expert informatique chez moi, dans ma boîte. Qui j'appelle ?
On peut recourir à des conseillers spécialisés, des prestataires de services qui vont faire les audits nécessaires et qui vont mettre en place un plan d'action de manière à pouvoir obtenir une sécurisation de l'entreprise qui soit au niveau par rapport aux menaces auxquelles elle peut
faire. Quelle que soit la nature de mon business, il y a à peu près les mêmes menaces pour tout le monde ou bien certains business sont plus sensibles à d'autres types d'attaques que d'autres ? Éventuellement.
Alors ça va dépendre évidemment. Si on est une PME industrielle avec une chaîne de production, on a certains types de menaces qu'on va pas trouver dans une entreprise de service ou une entreprise qui est uniquement dans de la vente en ligne. Donc là, on va avoir des spécificités. Il y a toujours le risque humain qui est partout. Donc se protéger en matière de cybersécurité, c'est aussi adopter des bonnes pratiques dans l'entreprise. Évidemment les mots de passe, évidemment de ne pas mettre de.
Est-ce que c'est pas comme dans l'aviation le principal risque, le risque humain d'ailleurs. On dit que dans l'aviation, quasiment dans la plupart des cas et des accidents majeurs, il y a toujours un risque humain beaucoup plus qu'un risque technique, est-ce que c'est le cas aussi ?
Ça fait partie de la chaîne des risques.
Oui, c'est une des composantes.
Oui.
C'est une des composantes, pas unique, mais... Moi, je rajouterais que sur une démarche un peu, on va dire, achat, c'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire quand il doit sécuriser un peu son parc ? D'abord, c'est souscrire une offre de sécurité managée auprès d'un grand éditeur spécialisé, donc qui va lui donner un package qui va être administré pour lui et ce qui va quand même grandement lui faciliter la vie.
En fonction de son type d'informatique, en fonction de ses besoins.
Absolument.
D'accord.
Donc, il y a tout un tas d'offres qui existent. Ensuite, c'est de souscrire aux bonnes pratiques qui sont édictées par l'ANSSI. Ça, on parlait de mots de passe, on parlait de mise à jour des données.
Et ça, je trouve
c'est
sur
simple,
le
c'est facile.
Sur France Numéro 3, les liens pour aller
d'accord,
vers l'ANSSI,
okay,
effectivement.
D'accord.
Et puis après, c'est tout un tas d'acquisitions de solutions extrêmement simples, je vous le disais, de containerisation des données personnelles et professionnelles qui permettent là déjà complètement d'étanchéifier toutes les données d'entreprise qui seront managées par l'entreprise uniquement. Donc en cas de perte d'un produit, on a des déclarations de vol, de perte de mobile tous les trimestres qui sont absolument effarantes. Une fois que le produit est perdu par le collaborateur, c'est quand même plus facile à distance d'effacer toutes ces données, de les maîtriser, plutôt que de les laisser traîner dans la nature.
Alors, on le disait, les hackers débordent d'imagination, ils trouveront toujours des solutions pour contourner les moyens qui nous protègent. Pour autant, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui apparaissent ? On ne parlait pas beaucoup, d'ailleurs, il y a quelques années, on ne parlait pas de tous ces ransomware, etc. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas encore vues, qui sont en train de se développer à votre connaissance ou pas ?
Non, nous ce qu'on voit beaucoup, c'est des demandes de rançon. Alors même ne serait-ce qu'hier, on a reçu
du style je t'ai vu tout nu en train de te masturber,
on a reçu ça sur l'adresse média hier. Mais même je pense que c'est même pas c'est plus là du phishing en fait. C'est-à-dire qu'ils en envoient tellement qu'il y a quelques personnes qui tombent dedans et qui payent.
À l'évidence, pour qu'il y en ait autant, il doit quand même y avoir des résultats. Mais en entreprise, on reçoit également ce genre de choses.
Nous, première fois hier, j'ai vu ça hier, par hasard.
D'accord. Quel était quelle était la raison de la demande de rançon ? Sur quel sujet ?
C'était des vidéos compromettantes. C'est sur ça. L'adresse média de la boîte en plus.
Sur l'adresse média de la boîte.
Sur l'adresse média, qui est l'adresse la plus publique.
Ce qui prouve bien que ça se fait de manière automatique, parce qu'ils savent très bien qu'effectivement,
et puis avec, a priori... avec tous les caractéristiques type les fautes d'orthographe et puis tout.
Oui,
ce
et
que
puis
vous
trouvez. Alors, moi j'en ai reçu plein. Enfin, mon épouse en a reçu, on en reçoit tous, en gros apparemment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils me trouvent toujours quand même un mot qui est perturbant. C'est-à-dire, je sais que vous utilisez tel mot de passe, etc. C'est pas mon mot de passe, mais ils l'ont trouvé quelque part. C'est vrai que c'est très.
Après, il y a des bases. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des. Quand un système d'information se fait pénétrer, il récupère derrière des bases de données. Et la tendance qu'on a tous, c'est généralement d'utiliser le même mot de passe. Et après, ces bases-là sont vendues sur le darknet, en fait.
Alors, moi,
on est confronté, notamment en cybersécurité, aussi à. Comme on fait du paiement en ligne, on est confronté à des gens qui volent des bases de données de cartes bancaires, qui sont des cartes volées, perdues, et ainsi de suite, et qui ensuite tentent d'utiliser sur le site.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Il y a aussi ce genre
de. Il y a un sujet auquel vous pourriez m'aider tous les trois, que j'ai jamais résolu, ce sont les mots de passe. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, je me souviens que.
Il est formidable.
Je sais qu'il y a plein de solutions. J'ai jamais réussi à trouver la bonne. Je n'ose même pas vous dire ça. J'ai un fichier Excel avec 597 mots de passe différents sur différents sites. Et chaque fois, je dois aller le voir. Alors, heureusement, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu as mis un mot de passe pour ouvrir ton fichier Excel? Alors, déjà, j'ai protégé ça, ce qui était le minimum que je ne savais pas. Mais je ne sais pas comment gérer ce problème. Quelles sont les bonnes solutions sur la gestion de ces mots de passe? Parce qu'on est tous, utilisateurs de tellement de sites sur lesquels on doit s'identifier.
Il y a des très bons outils en ligne qui sont sécurisés, qui permettent, effectivement, avec un mot de passe maître, qui est pour le coup très compliqué, que vous êtes le seul à connaître, ils vous proposent, dès que vous êtes sur un site internet, de créer un mot de passe que eux vont stocker, et un mot de passe très compliqué.
Ouais, mais mon problème, je parle de 575 mots de passe, il faut que je repositionne, recommence sur les 575 sites.
Il faut faire le travail de recommencer.
575 fois, donc.
Ouais. Voilà.
D'accord, mais c'est ça mon frein. Ouais. Pour le moment. Parce que c'est une semaine de boulot, quand même, globalement.
Au fur et à mesure.
C'est ce que font les gens en général. Racontez-moi comment font les gens.
Si vous avez par exemple un mobile Samsung, vous avez une application dedans qui s'appelle Samsung Pass.
Oui.
Et systématiquement, vous allez pouvoir décider d'enregistrer à chaque fois que vous allez sur un site ou utiliser un outil, d'intégrer automatiquement ce mot de passe dans votre application, qui va gérer pour vous après la codification des sites et l'ouverture de ces mots de passe.
Parce que Romain Bonenfant, c'est pas ça un des principaux risques au départ? C'est pas ces fameux mots de passe qui sont potentiellement les plus grands dangers?
Oui, c'est souvent le cas, effectivement. Donc il y a des solutions un peu ergonomiques pour stocker des mots de passe, ça reste peu satisfaisant. Après, est-ce que vous l'utilisez? Non. Donc
à cause de ça, à cause de ce travail supplémentaire idiot d'ailleurs que je devrais faire un jour, hein, mais vous avez raison.
Ensuite, ça pose la question de l'identité numérique. Et là, en France, on est plutôt en retard par rapport à nos voisins européens.
Oui.
Les choses sont en train de changer parce que il y a un texte européen qui va imposer une carte d'identité avec une puce, c'est-à-dire qu'il sera possible de stocker notre identité numérique au niveau des titres d'identité. Et on a une réflexion avec l'industriel pour voir la manière dont on peut utiliser ces informations de manière à pouvoir généraliser une identité numérique en France, qui existe déjà chez certains de nos voisins européens.
Sur Louis Event, quel est l'avenir de Louis Event? Qu'est-ce qu'il reste à faire, à inventer? Parce que la technologie évolue, vous êtes sur un secteur très, très, très large et très précis à la fois.
Oui. Le vrai enjeu pour nous aujourd'hui, c'est on est un très bel acteur français, c'est de devenir un acteur international.
Oui.
Donc d'arriver à dupliquer ce qu'on a réalisé sur le marché français.
Vous pourriez être une licorne?
Je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être un jour, mais en tout cas, et puis c'est pas réellement une ambition pour nous, parce que je trouve que c'est aussi un peu un mot fourre-tout.
Oui.
Non, l'enjeu là aujourd'hui pour nous, et puis surtout, on a eu un modèle de développement qui est intéressant, c'est qu'on a été quasiment toujours rentable. On a levé seulement 1 million d'euros.
Oui, alors il n'y a pas eu une levée récente? Non, il n'y a pas eu une levée.
On a levé 1 million d'euros en 2012.
Oui, d'accord.
Qui en 2012, c'était une très grosse, une très belle levée de fonds.
Bien sûr.
Qui aujourd'hui est complètement anecdotique par rapport au montant qu'on voit.
Par rapport à certaines.
Par contre, on est sur un modèle où chaque euro gagné, on l'a réinvesti. Et où aujourd'hui, on est une société qui a des bases extrêmement solides et saines qui nous permettent d'investir en autofinancement, en contrôle et de garder aussi le contrôle. C'est une société française et.
Je ne vous en voudrais pas, c'est un enjeu majeur de la vie des entrepreneurs. Et du coup, vous pouvez faire un peu de build-up, vous pouvez racheter éventuellement des entreprises et en faire peut-être un leader européen. Est-ce qu'il y a des rachats?
On a racheté quelques sociétés.
Oui.
Il y a des réflexions aujourd'hui, de toute façon, sur l'international pour aller plus vite. Un des enjeux et une des pistes, c'est effectivement de faire de la croissance externe. Donc il y a des réflexions ouvertes et c'est complètement d'actualité. Oui.
Est-ce qu'il y a des scoops qui arrivent chez Samsung? Faites-nous un peu rêver. La technologie, vous nous emmenez où là, dans les quelques mois et années à venir?
Les derniers scoops à la mode, c'est le lancement du Galaxy Fold, qui est un smartphone à écran pliable. Donc
ouais.
Ça, c'est quand même une grande avancée techno.
Bien sûr.
Donc on vient de le lancer le 18 septembre.
Ouais.
avec un certain succès, en tout cas en termes de buzz et
d'intérêt. Bien sûr, je ne l'ai pas encore vu.
Et c'est un très haut produit.
Et il a l'intérêt d'être plus étroit, c'est surtout ça quand on le glisse dans sa poche.
Il a l'intérêt d'avoir un écran facial de moins de 5 pouces, donc qui permet une prise en main rapide, d'aller chercher vos notifications, lire vos SMS, et puis après de l'ouvrir et de passer plutôt sur un mode tablette avec un écran de plus de 7 pouces, qui là va vous permettre en fait d'avoir un affichage extrêmement confortable si vous voulez regarder des.
Donc ça, c'est la nouvelle rupture.
Excel ou autre.
Et la suivante ?
Attendez un petit peu, soyez patient.
Je suis de nature impatiente et j'adore la technologie. Et chez France Num, qu'est-ce qui se prépare dans les semaines et les mois à venir ?
Chez France Num, on déploie l'initiative, on est vraiment dans une logique de marque. Donc une marque, ça prend du temps à établir, on a un an, on voit qu'on commence à parler de France Num sur les réseaux sociaux, il y a des activateurs qui se revendiquent France Num, on participe à pas mal d'événements. Et ensuite, on travaille aussi à avoir un contenu encore plus pertinent. Aujourd'hui, on s'adresse un peu à toutes les entreprises avec une offre généraliste. Vous l'avez dit, il y a un foisonnement de contenu sur des thèmes assez divers, la cybersécurité, vendre en ligne, etc. On est en train de voir comment on peut avoir un contenu qui est spécifique à certains métiers. Donc, on travaille avec les fédérations professionnelles. Par exemple, quelles sont les bonnes pratiques pour faire un site web pour un coiffeur, par exemple. C'est probablement avoir un système de réservation en ligne. C'est avoir une forme de book pour voir ce que peut faire le coiffeur. Ce genre de choses. Donc, du très concret, du très pratique, adapté à des entreprises en particulier.
Merci beaucoup. Merci Romain. Bon enfant. Je rappelle que vous êtes sous-directeur, je veux dire le titre total, le global, sous-directeur des réseaux et des usages numériques à la Direction Générale des Entreprises, que vous êtes aussi venu nous présenter le portail France Num. Frédéric Fauchère, vous êtes, quant à vous, directeur de la division B2B Mobilité chez Samsung. Et Pierre-Henri Deballon, président cofondateur de WizEvent. Merci à tous. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour un quatrième numéro d'Impact PME. Et puis, bien sûr, on se retrouvera, vous le savez, en fait, le 5 novembre au Conseil économique et social et environnemental pour cette grande journée organisée par BFM Business et la CPME. Bonne fin de journée à tous, on se retrouve très vite sur BFM Business.